Le dévoilement de Dieu numéro 164. L'homme intérieur. La vie intérieure. 25 juillet 2020. Pasteur Brian Kozurek. 164 maintenant. Le stade du ministère parfait. De lui-même. Pas un homme. Pas une dénomination. Qui ont eu leur action au cours de leur âge. Là. Voyez-vous. Mais s'est-il lui-même manifesté? Il se manifeste selon la promesse, confirmant l'exactitude de Luc 17.28, Malachi 4, et ainsi de suite, Hébreux 13.8. Ce moment-là, ce serait le moment où quoi? Où la semence royale d'Abraham attendrait le fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est-il apparu, sous la forme d'un être humain, à la semence naturelle d'Abraham avant la destruction, et Jésus a dit que ce serait pareil pour cette semence royale avant le retour du Fils promis. Ok. Ainsi. Regardons à ce qu'il dit ici. Ainsi. Frère Branham nous montre qu'il doit y avoir une apparition de Dieu, à la semence royale d'Abraham avant que nous n'ayons rencontré le Fils promis, comme l'exemple que Dieu nous a donné avec Abraham, là-bas dans Genèse 18, où Dieu est apparu à son prophète Abraham, avant qu'il n'ait reçu le fils promis, Isaac. Maintenant, lisons ceci pour nous-mêmes dans Genèse 18, 1-12, et n'oubliez pas qu'il a dit, que tous les types doivent être accomplis. Ainsi, lisons nous-mêmes pour découvrir ce type. L'Éternel, Sester Jéhovah, lui, Abraham, apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il, Abraham, était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il, Abraham, leva les yeux, et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui, Abraham. Quand il, Abraham, les vit, il, Abraham, courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il, Abraham, dit, Seigneur Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie-moi pas point, je te prie, loin de ton serviteur, Abraham. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur, après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils, les trois, répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de la prêter. Il, Abraham, prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il, Abraham, les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il, Abraham, répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux, Jéhovah, dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Remarquez ici, que Dieu dit à Abraham, qu'il reviendra à Abraham, au temps de la vie, qui se situe entre 16 et 20 ans. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah Néhémie pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est-il vieux. Maintenant, voici la chose que je voudrais que vous puissiez retenir. Dieu, Jéhovah lui-même, a fait une promesse à Abraham, qu'il allait changer leur corps, au temps de la vie, ce qui signifie qu'il leur a promis qu'il allait faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, et s'estère de les ramener de la vieillesse à la jeunesse. Maintenant, rappelez-vous que frère Branham mit cela en type, avec le même Dieu, qui Esther sur scène et a dit que le type Esther valable aujourd'hui. Je n'aime, il veut pas que vous l'oubliez. Mais Sarah rit en elle-même, pensant que cette promesse était impossible. Mais rien n'est impossible pour le Dieu qui a créé les cieux et la terre. S'il pouvait prendre une motte de terre et former le corps d'Adam et y souffler le souffle de vie, ensuite, il pouvait certainement prendre la vieille argile séchée et le modeler pour qu'elle soit jeune et tendre de nouveau. Je l'ai moi-même fait aussi. J'ai pris de la vieille argile et j'y ai ajouté un peu d'eau et l'ai pétri dans mes mains, au point de la rendre tendre et souple à nouveau. Et si je puis le faire, pourquoi Dieu n'aimé le pourra-t-il pas? Mais elle douta de la promesse. Et voici la chose. Dieu pouvait la détruire juste là, comme il le fit aussitôt avec la femme de Lot. Je pense que Sarah était un tout petit peu bavarde ici, mais frère Branham nous a dit que ce qui a empêché Dieu de détruire cette femme d'Abraham, Esther, que la promesse de Dieu à Abraham incluait sa femme Sarah. Premièrement, Sarah n'y a que Dieu pouvait le faire, et ensuite quand il lui demanda pourquoi il s'était moqué, elle lui mentit. Dans sa prédication, le mariage et divorce 21 février 1965 MP, 83. Frère Branham dit, pourquoi Dieu n'a-t-il pas tué Sarah, qui était assise juste là, niant et mentant à Dieu juste en face? Il était assis là comme un homme mortel, mangeant de la viande, mangeant du pain, buvant du lait. Et il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Les derrière, elle était derrière lui. Dans la tente, il ne l'avait pas vu, en disant c'est. Comment Esther ce possible? Elle a dit, je n'ai jamais dit ça. Oh, oh, là là. Dire à Dieu en face qu'il Esther un menteur, mais Néhémie ne pouvait pas l'ôter de la terre. Pourquoi? Elle Esther une partie d'Abraham. Amen. Il Néhémie ne pouvait pas lui faire du mal à qui, sans faire du mal à qui à Abraham. 172 maintenant. Vous les femmes, vous voyez quelle Esther est votre place. Et la Bible dit, vous les femmes, soyez comme Sarah, qui s'habillait d'une manière décente, qui était loyale et fidèle à son mari, qui l'aimait tellement qu'elle l'appelait son seigneur, son chef, le propriétaire. Je pense que Esther le temps de s'examiner, mes sœurs. Esther le temps de l'apparition du même Dieu, qui a promis à Abraham, un fils promis, et ce même Seigneur, Jéhovah qui nous a promis de nous enlever pour rencontrer son Fils dans les airs, avec la promesse d'un corps changé, comme il l'a fait en Genèse. Il est ici avec la même promesse, et vous ferez mieux de faire l'inventaire chaque jour, de la manière dont vous traitez vos maris, parce que la manière dont vous le traitez, c'est Esther la manière que vous traitez Dieu, lui-même. Et la destinée éternelle de Sarah reposait sur le fait que Dieu Néhémie ne pouvait pas la tuer, parce qu'il briserait son fils Abraham. Ainsi, la prochaine fois que vous coupez votre mari, rappelez-vous, vous faites ce que Sarah fit à Dieu, lui-même. 13-33 L'Éternel, Jéhovah, dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Jéhovah, au temps fixé je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit, en disant, je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Mais, observez sa motivation, c'était la peur. Elle a renié la promesse, s'en est moquée, et ensuite a menti quant à son reniement. Mille, Jéhovah dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux, pour les accompagner. Alors l'Éternel, Jéhovah, dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel, Jéhovah, accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel, Jéhovah, dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham sauta encore en présence de l'Éternel, Jéhovah. Abraham s'approcha, et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes, au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et Néhémie pardonneras-tu pas à la ville, à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant. En sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel, Jéhovah, dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d'eux. Abraham reprit, et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui n'ai mis su que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel, Jéhovah, dit, je n'ai mis la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler, et dit, peut-être aussi trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel, Jéhovah, dit, je n'ai mis ferai rien. À cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur, Jéhovah, n'ait s'irrite point, et je parlerai. Peut-être aussi trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel, Jéhovah, dit, je n'ai ferai rien. Si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être aussi trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel, Jéhovah, dit, je n'ai mis la détruirai point, à cause de ses vins. Abraham dit, que le Seigneur n'ait mis s'irrite point, et je n'ai mis parlerai plus que 7 fois. Peut-être aussi trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel, Jéhovah, dit, je n'ai mis la détruirai point, à cause de ses 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Maintenant, ici nous avons la relation entre Dieu et un de ses fils, Abraham. Et dans cette relation, si vous remarquez combien avec humilité, Abraham s'est rapproché de cette négociation avec Dieu. Ce n'était pas pour échanger la pensée de Dieu, comme beaucoup des chrétiens le font, quand ils prient Dieu pour certaines choses. Mais Abraham savait que Dieu allait détruire Sodome et tous ses habitants, et ainsi Abraham, Néhémie négociait pas, mais il voulait juste savoir le degré de la destruction et combien en serait épargné. Il comprit que Lot était là en bas, mais Néhémie fit jamais mention de Lot. Devant Dieu, il voulait seulement savoir s'il y aurait de la miséricorde avant que les jugements Néhémie tombent. Maintenant, continuons au paragraphe 165. Remarquez, le vieux voile qui cachait la gloire. Les vieilles peaux de blaireau. Leur aspect n'avait rien pour plaire, sa chair non plus. C'est pour ça que les gens disaient, une espèce de garrot d'eau voûtée, comme ça? Il avait probablement 30 ans, les cheveux gris, et la barbe grise. Il n'avait rien pour attirer les regards. La Bible dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait pas l'air d'un roi, la vieille peau de blaireau. Mais, oh, ce qu'il y avait à l'intérieur. 324 et un petit groupe d'exaltés, assis ensemble dans une salle surchauffée comme ceci, s'estère comme ça qu'il les appelle. Pas grand chose pour plaire dans leur aspect, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis sûr que s'estère voilà beaucoup de cœur. Voyez-vous? Voyez-vous? Bien. Maintenant, regardons aux Écritures, par exemple Esaïe, pour voir comment Jésus, le Fils de Dieu et le voile de Dieu, choisit de se cacher. Esaïe 53:1-2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il, le Fils de Dieu, s'est élevé devant lui, Dieu, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Maintenant, examinons ce que Dieu a dit au sujet de son Fils, à travers le prophète Esaïe. Cela nous dit qu'il, le Fils de Dieu, s'est élevé devant lui, ce qui signifie dans sa présence. Ce mot devant a été traduit du mot qui signifie dans la présence de. Ainsi, ce Fils, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et pourtant n'aimé dépendait en rien d'une quelconque influence extérieure, car le sol n'était pas bon. C'était une terre desséchée. Il n'aimé pouvait pas grandir en dépendant de quoi que ce soit, excepté de la présence de Dieu. Il était le fils de David, mais pour un royaume qui a été détruit et régi par Rome, quel bien lui aurait été cet héritage? Les Juifs étaient religieux, mais sans esprit, et ainsi, ce n'est qu'une démonstration juridique. Une terre desséchée. Pas d'eau, pas d'esprit. Et pourtant, cette faible plante a poussé. Et c'est la condition de la semence royale aujourd'hui. Nous vivons dans un âge où il n'y a pas de réveil, pas d'arrosage de l'esprit, pas d'héritage sur lequel compter. Cette nation a un héritage chrétien, mais qui a été perdu, il y a de cela beaucoup d'années, et ce pays est très sec, le monde est sec, et l'esprit n'arrose pas pendant le réveil. Comme c'était le cas, une fois. Le sol est très sec, et pourtant nous restons dans sa présence et cette présence est la seule chose qui nous amène à grandir en lui en toute chose. Jésus Néhémie pouvait pas compter sur cet héritage, il Néhémie pouvait pas miser sur la religion juive pour le soutenir, il Néhémie pouvait pas compter sur la famille, il Néhémie pouvait pas compter sur ses amis. Il Néhémie pouvait pas même pas compter sur les apôtres. Ils l'ont tous abandonné. Mais il était soutenu par la présence de Dieu. De il, le Fils de Dieu, s'est élevé devant lui, Dieu, comme une faible plante. Pas une plante épaisse et saine, mais une petite brindille de vie tendre montrant, poussant comme d'une bûche morte. Et remarquez que cette scène nous dit qu'il s'agit d'une terre desséchée comme un désert. Pas de vie autour, pour le soutenir. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et ainsi, Esaïe nous dit comme résultat, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ni beauté, pas de visage. Pas un aspect visible, susceptible d'attirer. Pas d'attribut humain, susceptible d'attirer l'attention des gens. Ni éclat, il n'y avait aucune magnificence, il n'a pas de beauté, il n'a pas d'excellence, il n'avait pas de majesté. Il n'est pas venu dans ce monde avec ce qui pouvait l'aider le long de son voyage. Tout ce que nous pouvons voir en observant, c'est-à-dire ce que nous voyons apparaître comme une petite tendre brindille d'une vie. Mais pourtant, il y avait la vie. Quoique voilée dans cette minuscule tendre brindille d'un arbre. Et souvenez-vous que les arbres typifient les hommes dans la Bible. Pourtant il n'est mis, possédait pas des attraits physiques qui pouvaient faire qu'on regarde à lui. Il n'y avait rien qui pouvait être vu. Mais un panneau d'une vie intérieure. Qui semblait attiré par la présence de la lumière. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez voir dans la description que ça y fait de lui. Il était uniquement dépendant de la lumière, de la glorieuse présence de Dieu, et de cela seulement. Et quand nous, ceux qui l'observaient le verront, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'y avait rien quant à son apparence, qui pouvait être valorisé. Il n'était pas beau. Il n'y possédait pas une grande carrure, ou un grand physique. Non. De l'autre côté, Esaïe continue de le décrire comme trois méprisés et abandonnés, des hommes méprisés, mésestimés, dédaignés, méprisables, et de qui on s'est moqué. En d'autres termes, ce n'est pas que son apparence physique était rouge, mais il était regardé avec dédain et mépris. En d'autres termes, pensée indigne d'être avisée, réaction, etc., considéré en dessous de soi, ce serait quelque chose que d'être petit de taille mais que mignon ou beau. Nous pouvons regarder à une petite personne, qui présente une belle apparence et trouver de l'appréciation dans nos regards, et même appréciant une personne qui serait petite de taille, qui soit beau et bien bâti, comme un athlète. Mais Néhémie possédait aucun de ses attributs terrestres. La terre d'où il provenait était entièrement dénudée, séchée. Et ce qui signifie qu'il n'avait rien qui pouvait compter pour ce monde, à part la lumière qui le soutenait. Ainsi, il était rejeté, refusé, mis au rebut, chassé. La Bible nous dit l'Esther venu vers les siens et les siens Néhémie l'ont point reçu, ainsi, il était un homme des douleurs, oh, et si nous pouvions penser à sa douleur, méprisé, rejeté des hommes, sur qui on pouvait se déferler, ils ont essayé de le lapider, ils ont essayé de le jeter dans un trou, et on dit de lui qu'il était illégitime, pensez simplement à toutes les paroles haineuses, qu'il aurait entendu, alors qu'il était rejeté de la ville, et de ville en ville. Il était véritablement un homme des douleurs. Ensuite, Esaïe ajoute, et rejeté des hommes. Et c'était sa vie. C'était la vie de la tendre plante, la plante sans une attraction physique, la vie qui croissait sans aucun support. Quand il eut besoin d'un soutien, même la plupart de ses disciples l'avaient abandonné et fuir pour sauver leur propre peau. Et pourtant, il estère très aimant, il a continué à donner, aider, à guérir les malades, ressuscitant les morts, chassant les démons, qui tourmentaient les autres, et il continuait à donner de l'espérance, à quiconque en voulait. Et tout le temps, qu'on le traînait hors de cette ville-ci et de cette ville-là, il a continué à aider tout ce qu'il croisait, sans tenir compte de ce que cela lui coûterait. Car il n'y méritait pas les peines qui lui étaient infligées, mais c'était à cause de ce qu'il faisait pour les autres, et les hommes par jalousie le haïrent, parce qu'il possédait c'est-à-dire que eux n'avaient pas. Une vie si connectée à la lumière de la présence de Dieu, que tous savaient que Dieu était en lui. Et il était habitué à la souffrance, cette souffrance est-elle une souffrance mentale enthousiaste, ou une détresse due à une affliction ou une perte, douleur aigre, un regret pénible. En d'autres termes, il n'aimait regardait pas au prochain rejet, à la prochaine pierre qui lui sera jetée, La prochaine salive qui coulerait de son visage. Les prochaines insultes centrées sur ces personnes. Cester tout ce qui blesse. Cela eut un effet sur lui. Cela l'a amené dans sa tombe. Et par-dessus tout, un sail continue, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tout ce qu'il a traversé, il l'a fait pour nous et nous n'y lui accordons même pas une grande estime pour cela. En fait, il est dit que nous l'avons dédaigné. Dégoûté par lui. Pourquoi? Pourquoi? Car quatre cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, s'estère de nos douleurs qu'il s'estère chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Tout ce que nous avons vu en lui, était juste une réflexion de notre propre vie. Nous avons projeté nos faiblesses sur lui. Nos faiblesses ont été projetées sur lui. Il a apporté nos souffrances, et nous ne le savions même pas. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment, les critiques sévères, et les réprimandes, et tous les coups qu'il reçut, c'était cela qui nous donne la paix si terre tombée sur lui. Ainsi, nous pouvions avoir la paix, afin que nous soyons satisfaits et s'estère par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ce qu'il faisait, c'était juste de se tenir dans la présence de la lumière afin de mûrir. Et tout le long, il vécut pour les autres, et personne n'a aimé le compris, personne n'a soutenu ce qu'il faisait, totalement incompris et pourtant, c'est pour nous qu'il a vécu, tout le temps. Et aujourd'hui, il offre son esprit, pour qu'il entre dans nos êtres, et le faire de nouveau, si nous le lui accordons. L'autoriseriez-vous, l'estimeriez-vous, pour cette fois, sa vie, par laquelle vous vivez maintenant? Paul dit dans Galates 2, 20-21, j'ai été crucifié avec Christ, je suis mort en moi-même, de même qu'il était mort, en lui-même, afin qu'il soit crucifié pour moi, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'ai aimé rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice, juste, sagesse, s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ainsi, nous vivons par la même vie, la même révélation comme le Fils de Dieu. Ensuite, comme nous avons souffert, nous serons aussi ressuscités avec lui. Le livre des âges de l'Église chapitre 4, l'âge de l'Église de Smyrne p. 18. 117-1 Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 1.17-18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps prisonnier mis sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si nous n'y souffrons pas avec lui, nous n'y pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on est mis peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire. Pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère Némi peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère peut régner. Et, puisqu'il veut que nous partagions même son trône, alors tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant Némi sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh, Quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume à travers beaucoup de tribulations? Je sais que mon Rédempteur Esther vivant 6 avril 1958 p. 49 et cette grande obscurité qui couvre la terre maintenant, n'est-ce là que pour déclarer que cette lumière se fraye son chemin vers le bas. Quand la mort se tient plus proche, qu'elle pourrait frapper dans une heure. Si la mort se tient plus près là, que fera-t-elle? Cesse la vie qui approche. La résurrection, la Pâque pour tous les enfants de Dieu, Esther suspendue là-bas, pressant. Les anges descendent. Le grand Saint-Esprit se déplace à l'intérieur. Les ténèbres prennent leur dernier péage, car la lumière sera bientôt ici. Christ viendra, la joie de l'espérance des âges, une réelle résurrection pour tous les croyants car nous partagerons avec lui, dans sa résurrection, comme nous avons partagé avec lui dans ses souffrances. Celui qui souffre avec moi, règnera avec moi. Oh ! Alors irai-je au ciel sur un lit fleuri des facilités, pendant que d'autres ont gagné le prix et ont navigué à travers des mers ensanglantées. Non, je dois me battre, si je dois régner. Augmente mon courage, Seigneur. C'est Esther ma prière. Identifié à Christ 20 décembre 1959 p. 39. Identifiez-vous à une certaine reine du cinéma et voyez où vous serez. Identifiez-vous avec un certain cow-boy ou un certain adolescent et voyez où vous serez. Mais je vous défie ce soir, identifiez-vous avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection et voyez où vous serez à la résurrection. Car si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Dieu nous a fait la promesse. Et mon désir entier Esther d'être comme lui. Prends-moi, ô Seigneur, et modèle-moi, et façonne-moi, taille-moi encore. Et comme le prophète qui Esther allait dans la maison du potier, brise-moi et refaçonnez-moi. 6-12 Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Seigneur Jésus, quand les afflictions vinrent, quand les réprimandes vinrent, quand les gens diront toutes sortes de mauvaises choses à mon sujet, à cause de toi, laisse-moi être comme Jésus, le véritable agneau de Dieu, qui n'avait point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, quand il avait souffert de toutes ses réprimandes, ce rejet, ses peines souffrances physiques, Dieu avait un seul but en esprit, sa semence. Vous. Moi. Et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son, le Fils de Dieu, âme, il rassasira ses regards. Par ses connaissances mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est Esther pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'Esther livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Maintenant, revenons au paragraphe 166. À l'extérieur, il n'y avait rien. Mais tout se trouvait à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, C'est Stéola que vous le voyez. Comment y entrez-vous? Par une poignée de main? Par une adhésion? Non. Vous y naissez. En mourant, en vous débarrassant de votre vieille peau de blaireau. Vous voyez? Votre vieux moi. Pour entrer dans une nouvelle. Voyez? Se défaire de la vieille peau de blaireau. 326 La lumière de la Shekinah. Écoutez. Prédicateur. Prédicateur. Je veux que vous écoutiez ceci. Une fois qu'on est Esther à l'intérieur. Maintenant, je n'aimerais vraiment pas me presser, ici, pour bien m'assurer que vous le saisissez. Une fois qu'on est Esther à l'intérieur du voile, sous la gloire de la Shekinah, la lumière de la Shekinah Néhémie, prend pas la parole de Dieu pour révéler que Jésus est Esther un diseur de bonne aventure. Non. Comme le font les dénominations aujourd'hui. Télépathie. Exalté. Béelzébul. Ce n'estère pas ce que la gloire de la Shekinah révèle à son sujet. 327 Mais la gloire de la Shekinah fait mûrir la semence, qui est Esther promise pour l'heure. La parole. Montrant qu'il estère encore le lys de la vallée. Elle manifeste cette semence. Le lys de la vallée. Le pain de vie, l'alpha et l'oméga, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est à la portion du croyant. La gloire de la Shekinah révèle au croyant qu'il est à le même hier, aujourd'hui et éternellement. 328 Non pas, ces jours-là, lui, c'est Esther du passé. Il est mort, et c'est Esther fini. Alors, mon ami, si vous croyez ça, vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu'il estère trois personnes? Voyez, comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler dans un baptême, des gens au nom de Père, Fils et Saint-Esprit? Alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre? Alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Voyez? 329 La gloire de la Shekinah le manifeste. Lui. Elle produit la parole de la promesse. Directement devant vous. C'est Esther pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est Esther parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus, sous forme d'un petit homme humble, pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et il se voile aujourd'hui dans des vases de terre, avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, de vieilles peaux de blaireaux. Mais au-dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Voyez, Esther la nourriture des croyants. Esther destinée uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. Uniquement. Voyez-vous, la semence pain de proposition. Remarquez. Que fait-elle? Cette gloire de la Shekinah au-dessus du pain de proposition? Elle l'empêchait de se gâter. Oh! Là là! Je pourrais prêcher une autre prédication là-dessus. Chaque fois que je veux le résumer, il me ramène tout droit au calvaire et sur mes genoux. J'y vais. Et quoique cela me presse de haut en bas, et je sens le rejet, et je sens la réprimande. Pourtant, chaque fois que cette semence arrive à la lumière, et par la lumière, ma vie est soutenue. Vous savez de quoi je parle. Dieu nous envoie des épreuves, pas assez, mais nous devenons si agités, des brisements des cœurs, la fierté blessée, blessé à cause du mépris ou du rejet ou des paroles que les gens pourraient dire. Et cela nous blesse, nous brise, Mais souvenez-vous d'une chose. Quand cela arrive, Dieu est là. Cette petite brindille d'un arbre n'a rien d'extérieur pour dépendre. Seule, la vie qui s'y trouvait. Et cette vie a continué à monter jusqu'à la présence de cette lumière et chaque fois, à travers nos combats de cette vie et les souffrances dans notre être émotionnel, dans notre être mental. Pourtant, Dieu est même là, pour nous façonner, nous tailler par cette souffrance, afin d'être davantage comme lui. Frère Branham continue 330. Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel, elle était conservée dans la gloire de la Shekhinah de génération en génération. En dehors de là, les vers s'y infiltraient pendant la nuit, elle se contaminait. Esther, c'est vrai? L'assemblée dit, Amen. Tirendee 331. En dehors de la gloire de la Shekhinah, les jours des miracles sont passés. Voyez, tout ça, c'est Esther du fanatisme. Mais à l'intérieur, c'est Esther à l'intérieur que Dieu traite, parce qu'à l'intérieur se trouve la vie, provenant de la lumière, à son image. Prions. Ce sermon a été traduit en langue française par le frère Bilvenga, bilvenga@yahoo.fr. C'est Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA.